Ça y est, nous sommes dans le sud, à la porte du désert, Gardaïa. Le départ d'Alger ne s'est pas fait sans mal, nous avons roulé presque toute la nuit pour rattraper le temps perdu. Hier après-midi, le ministère algérien de l'information devait donc nous remettre à Maximilien une autorisation d'importer temporairement ses appareils photos, à moi une attestation identique pour l'enregistreur. À 15h, je téléphone au ministère, ça y est, ça s'arrange, il nous faut simplement le programme détaillé, jour par jour, de votre voyage au Sahara. Aussitôt dit, aussitôt fait, 16h, il faut remettre la liste détaillée des appareils, et tout. Une heure après, le haut fonctionnaire concerné signe pour les appareils photo, pas pour celui d'enregistrement. Je demande à le voir, accueil à la limite de la plus élémentaire politesse, je m'étonne de l'attitude, des journalistes venus dans les meilleures intentions n'écrivent-ils pas parfois, après de tels traitements, des articles peu enthousiastes? Réponse brève mais nette, à cela, monsieur, comme à vous, nous suggérons vivement d'aller visiter Israël, et nous faisons tout ce qu'il faut pour qu'ils ne reviennent pas en Algérie. Il est donc temps de claquer la porte. Je me passerai de l'enregistreur professionnel et je travaillerai, le plus discrètement possible, avec l'appareil à cassette que les douaniers n'ont pas remarqué dans le fond de ma valise. Maximilien, lui, sautera dans un taxi, ira récupérer sa caisse photo à l'aéroport et nous rejoindra juste à temps pour prendre l'autocar de nuit. 20h, Alger, place des Martyrs. À deux pas de la mer, juste au-dessous de la Casbah, près du célèbre hôtel Aleti, rappelez-vous, Pepe le Moko, actuellement fermé cet hôtel d'ailleurs. C'est de là que partent les autocars pour le sud, 52 places dans le nôtre, 52 places assises, 26 debout, tout est occupé. Des marchands, des fellahs et des ouvriers de la ville retournant dans leur bled pour passer les fêtes du mouton, l'Aïd Kébir, dans leur famille. Odeur d'huile, de poussière, de sueur, de fumée, de vieille cuisine, odeur de pauvreté. Le car fonce dans la nuit, au mépris de toutes les règles de la circulation, et les trois Européens que nous sommes voient l'accident à chaque virage. Les Arabes, d'abord calmes, prennent peur à leur tour. Il faudra la forte clameur du soulagement, suite à un virage négocié de justesse, pour que le chauffeur consente à ralentir quelque peu. Mais à chaque courbe, un peu brusque, le méchant plateau ornementé de clinquants que ce fellah rapporte à sa famille et qu'il a soigneusement disposé dans le filet à bagages lui tombera sur la tête avec ce bruit de gang des rixes orientales. À chaque fois, il leur replacera dans le filet. La gouate passée, l'atlas tellien et l'atlas saharien sont derrière nous. Le sol est plus aride, les horizontales sont plus nombreuses. Mais ce n'est pas encore tout à fait le désert. 1h du matin. Nous faisons halte entre Laguat et Gardaïa. Une maison, une pièce, une lampe à huile. Du thé très fort, âcre et des crêpes refroidies. Festin de roi, les gens d'ici savent mieux sourire que ceux d'Alger. La maigre pitance est partagée en toute complicité. À 4h ce matin, nous sommes arrivés à Gardaïa, l'une des 7 villes du Mzab. Un petit hôtel tenu par des Mozabites venait d'ouvrir. Des clients le quittaient pour prendre un camion en partance pour Taman Rasset. Nous avons repris leur lit encore chaud, et nous nous sommes endormis dans l'odeur du café du matin. Ce sont les gosses qui nous ont réveillés. Ils partaient pour l'école. Souvent ici, les enfants sont mieux habillés que les grandes personnes, mais les loqueteux restent majorité. Dans la rue, l'âne le dispute à l'automobile, un fellah chevauche un bourricot entre l'encolure de la bête et son cavalier, une masse de laine, un mouton dont il n'est pas difficile d'imaginer quel sera son sort samedi pour la fête de l'Aït. Dès que nous sommes sortis de l'hôtel, deux policiers en civil sont venus à nous. Ils voulaient voir nos autorisations, nos accréditations professionnelles. Maximilien a joué le jeu pour que nous fassions front, lui et moi, ensemble. Il a déclaré n'en pas avoir d'autorisation. Par bonheur, il connaissait le policier. Il l'avait vu, voilà 3 ou 4 ans, à l'oasis de Janet. Alors, la conversation a vite perdu de sa sécheresse pour tourner autour de ces héros du désert, héros aux dimensions humaines. Toutou, qui s'est tué voilà quelques mois, Moineau, et les autres. Nous sommes allés prendre le thé, le premier de la journée, à l'hôtel Transat. La construction n'en est pas récente, et dans le hall, un tableau. Gardaïa la cubiste, Gardaïa la multicolore, sur sa colline, avec le minaret blanc suppositoire du ciel. Eva le reconnaît, ce tableau. Il est signé Brugmann, Maximilien Brugmann.
Je savais qu'en 1957, j'avais fait ce tableau et que j'avais fait cadeau à l'hôtelier d'époque en 1961, lorsque j'étais de passage pour aller vivre une année avec mes Touaregs du Tassili. Et j'en avais plusieurs avec, j'en ai même vendu une douzaine, je crois, aux syndicats d'initiative d'époque. Et voilà, c'est le deuxième que je trouve, parce qu'au musée de Wargla, il y en a aussi un. Quand on rentre par la porte en face, il y en a un même. C'est une sérigraphie qui représente Gardaïa.
Cette année chez les Touaregs, comment s'était-elle passée? Comment l'avais-tu préparée? Et ensuite, comment s'était-elle déroulée?
Oh, c'était une préparation de 3 ans, parce que j'avais fait un tout premier voyage de 7 mois et demi en autostop à travers l'Afrique. C'était mon école d'apprentissage pour le voyage. Et j'avais traversé le désert. Et après, j'ai préparé au retour cette mission Touareg qui devait m'amener au Tassili Niger, chez les Touaregs les plus pauvres, les plus déshérités du Sahara, parce qu'ils représentent que le 2% de tous les Touaregs nomades. Et pendant 3 ans, je me suis préparé. Et un bon jour, je suis parti, j'ai amené 1500 kilos de matériel à Janet, où on m'a mis une maison à disposition et qui s'appelle encore aujourd'hui la Maison du Suisse.
Mais comment vivais-tu? Comment gagnais-tu ta vie? Travaillais-tu ou étais-tu venu avec des économies?
Non, j'avais évidemment économisé pendant 3 ans, et j'ai reçu certains fonds aussi. Et le but, c'était de ramener un film de long métrage en couleur sur les Touaregs du Tassili. Et le film s'appelait, après, une fois que je l'ai ramené, Ombre bleue du Tassili. Et il est passé en Suisse romande et à la salle Pleyel à Paris.
Revenons à l'hôtel Transat et à la cour intérieure ombragée dans laquelle nous nous trouvions avec le commissaire de police. Vous vous êtes retrouvés des amis communs. Il faut dire qu'il était à Janet lui aussi, c'est-à-dire dans le sud, pendant quelques mois, et qu'il était aussi à Tamandracet. Vous vous connaissiez, mais vous ne vous en souveniez plus.
Oui, mais ce matin, quand on était sur la grande maison, sur la place du marché, il m'avait dit, mais toi là-haut, je t'avais vu déjà une fois, je reconnais ta barbe et tout ça. Et puis il est monté, il est venu nous dire bonjour. Bon, il nous a demandé si on avait les autorisations qu'il fallait et tout ça, mais et puis on a fait connaissance une nouvelle fois, quoi. Mm. Parce qu'on n'est pas certaine qu'on s'est trouvé à Janet ou à Tamandracet, mais en tout cas, on savait déjà mieux.
Il y avait un ami commun, ou en tout cas une connaissance commune, Toutou. Il est mort.
Toutou est mort et ça m'a attristé parce que je ne savais pas qu'il est mort. Et puis il me dit, ça fait 5 ans qu'il n'est plus parmi ce monde et il a eu un accident. Et il faut quand même que je dise qui c'est Toutou. C'était une de ces figures légendaires du Sahara. Et il y avait Toutou, il y avait Kappa Kapp, c'était un routier du sud quand la piste coudronnée s'arrêtait à Gardaïa. Et puis on s'en servait déjà 5 ou 6 fois en allant à El Golea. Aujourd'hui, c'est le goudron pour aller à El Golea, c'est le goudron pour aller à Timimoun. Mais c'est des figures qui sont restées quand même dans l'historique du Sahara, qui est tout près de nous, si on veut. Parce que ces pistes, ils ne sont pas vieux quand on les a goudronnées.
Mais Toutou, Kappa Kapp, ce n'étaient pas des Français d'Algérie, ce sont des gens d'ici.
C'était des gens de la région. Et qui ont eu un mérite. Le mérite, c'était à l'époque héroïque de franchir avec leur camion, plus ou moins affistolé avec du fil de fer et de la ficelle, de traverser ces déserts, d'apporter des marchandises dans des oasis perdues et de ravitailler ces gens qui étaient privés de tout autrement. Parce qu'une oasis dans le vrai sud, prenons Janet, prenons Ilésie, ex-Fort Polignac, ou même Insala, qui est plus près. Et ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Ils ont bien des dattiers. Et pour avoir des dattes, ils ont du lait de leurs bêtes. Ils ont des petits jardins sous les palmiers ombragés. Mais il manque quand même certains éléments, comme, je pense, pour manger une bonne gerba.
La gerba, c'est la soupe.
C'est la soupe, ici on appelle ça la soupe algérienne, mais la gerba est connue dans tout le monde d'arabe. Mais pour faire une bonne gerba, il faut des pâtes. Et les pâtes, ça vient forcément des commerçants du Nord. Donc, Toutou, c'était un de ces gars qui ravitaillait ces gens dans le Sud pour les aider à vivre ou mieux vivre.
conduisait comme un dieu, il est mort au volant.
Il est mort au volant, mais pas à bord d'un camion, au bord d'une voiture de tourisme. Avec une autre personne, il a culbuté.
Il buvait beaucoup.
On le dit, ça, je ne peux pas assurer. Je l'ai jamais vu sous et... Je me rappelle en tout cas une rencontre de piste avec lui entre les gorges Tarak et Tamanrasset. C'était le type, il s'arrêtait. On le croisait, il venait de piquer une tôle. On appelle piquer une tôle dans l'argot saharien. On appelle ça un ensablement avec son camion. Alors souriant, lui, il désensablait, et puis il faisait le thé et tout ça, il nous invitait à boire le thé, il venait de désensabler son camion, on a bu le thé, et puis pour finir, on causait, et on faisait le repas du soir, et puis lui, il est parti dans la nuit, et puis nous aussi, quoi.
Ça se passe à combien de kilomètres au sud d'Alger, à peu près, ce genre d'aventure?
Oh, cette aventure, la piste maintenant, encore actuellement, d'El Goléa vers le Hogar, c'est la piste. Le Coudron va seulement jusqu'à El Goléa sur la piste du Hogar. La même chose, vous pouvez trouver, on peut trouver sur au sud de Abd El Larrach, qui est du côté d'In Amenas. La même chose au sud de Djanet, forcément, c'est le Ténéré, c'est le désert absolu.
Ça fait au moins 1500 à 2000 km d'Alger, tout ça.
Ah oui, et c'est des kilomètres qui comptent, suivant où on passe et par quelle piste on passe. Tout ce qui est facile, c'est le départ d'Alger quand on descend vers le sud. C'est après que tout change.
Le prochain autocar pour le sud, pour Timimoun Larouge, ne part que demain matin. Tant mieux. Ce soir, en effet, nous pourrons, rare privilège pour des Européens, assister aux festivités d'un mariage mozabite. Les 7 villes du Mzab, dont Gardaïa est la plus connue, abritent en effet une peuplade aux coutumes bien différentes de celles des Arabes. Les femmes ne montrent qu'un œil sous les plis du voile, et le mozabite, commerçant notoire, est en quelque sorte le juif du désert. Puissant, travailleur, malin, et de ce fait pas toujours apprécié de la population maghrébine. Il joue de la complicité comme Mozart du piano.